CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonsoir tout le monde, salut Aurélien.
Salut Aurélien, salut à tous. Nous sommes jeudi et régulièrement le jeudi, je dis plus une fois tous les 15 jours ni une fois tous les mois parce qu'en fait en ce moment c'est toutes les semaines qu'on a le plaisir de recevoir Kader Ayoub pour son émission politique, son rendez-vous politique. Aujourd'hui, l'invité de Kader Ayoub, c'est Annie Bonnefond pour Europe Écologie Les Verts. Et comme je veux pas empiéter sur son temps, je te donne tout de suite la parole, Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous et bonjour Madame Bonnefond.
Bonjour.
Un mot pour commencer sur la violente agression dont a été victime Clément Méric, un jeune militant de gauche à Paris, ce jeune de 19 ans, étudiant à Sciences Po, membre du syndicat solidaire, à un état de mort cérébrale après avoir été agressé par des skinheads. Êtes-vous, comme le Premier ministre, pour une dissolution de ces groupes identitaires et fascistes?
Alors écoutez, vous me prenez un peu de cours sur cette question parce que c'est arrivé aujourd'hui. Moi, j'ai pas beaucoup d'informations sur cet événement en fait, parce que pour tout vous dire, j'étais occupée par mes obligations professionnelles aujourd'hui. Donc je vais pas pouvoir vous dire grand-chose. Je veux pas m'avancer sur aucune réponse parce que je ne connais pas du tout de quoi il s'agit. Voilà, je le regrette, mais excusez-moi, je peux pas du tout. Je vais pas m'avancer. Bon, après, voilà, c'est regrettable qu'un jeune de 19 ans soit mort pour des idées quelque part. D'après ce que je comprends que vous dites, c'est contraire à la démocratie et ça, c'est plutôt gênant. Voilà.
Donc Annie Bonnefond, vous êtes conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, conseillère municipale d'opposition à Montauban. On va parler de transition énergétique.
Ça, c'est une bonne idée.
Concernant donc cette transition énergétique dont on parle beaucoup, lorsqu'il faut parler de l'énergie que l'on consomme, est-ce qu'on est dans le vrai?
Alors, avant toute chose, je voudrais vous remercier de m'inviter à cette émission politique et de faire entendre la voix des écologistes, parce que c'est assez rare dans le département, je tenais à le souligner et à vous en remercier. Alors, ensuite, par rapport à la transition écologique. Alors, qu'est-ce que c'est que la transition écologique? Peut-être ça mérite une définition avant de se lancer dans quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la société, nos modes de vie et la société dans laquelle on vit sont plutôt destructeurs en termes de réchauffement climatique, hein, puisque bon, avec les émissions de gaz à effet de serre, ça provoque un réchauffement qui déséquilibre complètement nos modes de vie. On est dans une société d'ébriété, c'est-à-dire que on consomme beaucoup trop par rapport à toutes les réserves fossiles que l'on a et qui vont s'épuiser. C'est-à-dire que d'ici 2050, grosso modo, on n'aura plus de pétrole et pratiquement plus de gaz. Donc la transition écologique, c'est quoi? C'est à partir de ces constats que l'on sait vrai, la Terre, elle est limitée au niveau des ressources. C'est d'anticiper et de commencer à prévoir notre vie de façon organisée et sociale après la fin de toutes ces ressources-là.
Est-ce qu'il faut parler de l'énergie qu'on consomme avant tout lorsqu'on
Alors, il faut parler de plusieurs choses. Effectivement, il faut parler de l'énergie qu'on consomme dans le sens où il faut réduire cette consommation, c'est-à-dire qu'il faut économiser l'énergie. Alors, comment on fait pour économiser l'énergie? C'est toute la question. Donc, ça demande une réflexion parce que, si vous voulez, l'énergie, elle n'est pas utilisée dans tous les secteurs de la même façon. Il y a deux gros secteurs qui utilisent l'énergie, qui sont le bâtiment et les transports. Mmh. Voilà. Donc, il faut bien entendu, la première étape, c'est de mettre en place des économies d'énergie. Par exemple, en travaillant sur l'isolation des bâtiments. Tous les bâtiments qui ont été construits dans les années 70, c'est des véritables passoires énergétiques. Et donc, il faut travailler sur l'isolation de ces bâtiments. Il faut encourager les gens et les particuliers et les bailleurs sociaux à entreprendre des travaux les collectivités territoriales.
Visiblement, ça ne marche pas. Il y a eu ce grand plan annoncé dès son élection par François Hollande de rénovation thermique.
Pourquoi vous dites que ça ne marche pas?
on n'en a pas parlé. Apparemment, les travaux qui ont été sont à l'état de.
Vous êtes bien pessimiste là. Bon, alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a au niveau du bâtiment les réglementations techniques qui évoluent, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle réglementation technique, la réglementation technique 2012, qui oblige maintenant les constructeurs à utiliser des matériaux qui et de construire les bâtiments de telle sorte qu'ils soient économes en énergie. Donc ça, ces réglementations techniques, elles tombent pas du ciel, c'est-à-dire c'est à un moment donné des décisions politiques qui les posent, d'accord ? Ensuite, effectivement, au niveau du logement, on a une ministre qui s'appelle Cécile Duflot et quand même qui impulse et va lancer des rénovations sur les bâtiments sociaux pour économiser l'énergie. Je comprends pas. Enfin, alors bien sûr. Attendez, on a mis la conséquence des 30 glorieuses, c'est depuis 1945 qu'on fonctionne comme ça, hein, c'est-à-dire ça fait plus de 70 ans qu'on fonctionne dans une société de consommation et d'ébriété, et on peut pas d'un coup de baguette magique du jour au lendemain en un an effacer tout ce qui s'est passé pendant 60 ans et changer le monde, quoi. Voilà, donc ce sont des constructions qui vont se mettre en place sur plusieurs décennies, quoi. L'idée étant que en 2050-2060 on fonctionne autrement au niveau de la consommation d'énergie.
Annie Bonnefond, j'ai juste une question. Vous avez employé par deux fois le mot ébriété. On est une société, on est tous sourds.
On est sous de consommation. D'énergie. De pétrole notamment, hein, puisqu'on est à 100%.
Parce que ébriété, c'est quoi ? C'est avoir dépassé la dose prescrite, c'est ça ?
Voilà, hein, c'est ça. Hein, l'inverse de l'ébriété, c'est la sobriété. Hein, c'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on rentre dans une société de sobriété énergétique, c'est-à-dire de construire et de prévoir nos fonctionnements, nos modes de vie de telle façon qu'on économise sur les ressources naturelles et fossiles, quoi, hein, puisqu'elles ne sont pas illimitées, quoi. Voilà. Donc c'est ébriété, c'est comme quand on consomme trop d'alcool, quoi, hein. Voilà. Et ben nous, on consomme dans nos sociétés, on consomme pas trop d'alcool, mais on consomme beaucoup d'énergie fossile. Voilà. Et donc il faut arrêter de consommer cette énergie fossile qui actuellement dépasse largement la capacité de réponse de la planète.
Justement, énergie fossile, Madame Bonnefond, un rapport aujourd'hui présenté à l'Assemblée nationale par des parlementaires de tous bords et qui remet le dossier du gaz de schiste sur le devant de la scène et qui, pourquoi pas, propose une extraction propre.
Quelle catastrophe. Alors, le problème des gaz de schiste, il faut arrêter avec ces histoires de technique.
Ça marche aux États-Unis, Madame Bonnefond.
Mais oui, mais bon, attendez, bon. Les États-Unis sont sur la planète Terre aussi, hein, voilà. Le problème des gaz de schiste, il est à deux niveaux. Il y a le problème de l'extraction, effectivement, qui est pas, propre, hein, c'est-à-dire que ça se fait, la seule qu'on connaisse, c'est l'extraction par fracturation hydraulique, c'est-à-dire forte consommation d'eau, et pollution des nappes phréatiques, voilà, et échappement des gaz, voilà. Donc là, il y a un problème de pollution, en fait. Donc ça, c'est un peu à stand-by, hein, voilà. Mais le président de la République dit, quand on aura trouvé une autre solution, ben pourquoi pas.
L'extraction, oui.
Mais ça, c'est terrible de dire ça. Parce que même si on extrait les gaz de schiste, ça veut dire que c'est de l'huile, c'est du gaz, c'est du pétrole. Ça veut dire qu'on continue à fonctionner avec du pétrole et que le pétrole, quand on l'utilise, ça émet du CO2. Et que le problème, si on continue à utiliser, ça veut dire qu'on va pas du tout changer nos modes de vie, qu'on va continuer à émettre du CO2 et que le CO2, ça crée du réchauffement climatique et qu'en ce moment, on essaye justement diviser les émissions de gaz à effet de serre, donc le CO2 par deux et par quatre. On met tout en place pour ça. Donc ça va à contrario de tout ce qu'on peut faire. Si on décide de ça, c'est pas la peine de parler d'autre chose et attendons donc que la planète explose.
Mais si une solution est trouvée pour l'extraire proprement, est-ce que éventuellement
alors,
vous seriez
répète,
pour...
Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est-à-dire c'est pas le problème technique de l'extraction. C'est le problème de l'utilisation. C'est-à-dire que si on a les gaz de schiste, on continue à fonctionner avec nos modes de vie actuels et nos modes de vie.
Ils préconisent les députés, d'ailleurs, dans ce rapport, ils préconisent qu'une partie de l'argent, en fait, généré par la production de ces gaz de schiste aille sur les nouvelles énergies, vers la transition énergétique.
Ouais. Alors, bon, il y a plusieurs choses dans la transition énergétique, voilà. Mais pour terminer mon propos, il faut arrêter de consommer, si vous voulez, des énergies qui produisent des gaz à effet de serre. Les gaz de schiste sont des énergies qui produisent des gaz à effet de serre. Donc, même si on a un mode d'extraction propre, ce n'est pas compatible avec le réchauffement climatique, quoi. Voilà.
On aura compris votre position.
Voilà. Bon. Merci. Ensuite, par rapport à l'énergie, pour terminer, il y a aussi le problème nucléaire. Voilà.
Justement.
Donc, vous alliez me poser une question.
Exactement.
Me poser la question.
Comment fait-on pour passer de 75% à 50% de nucléaire dans le mix électrique, ce qui semble...
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du scénario Négawatt. C'est un scénario donc qui prévoit justement la sortie du nucléaire et de la dépendance aux énergies fossiles. Alors, la première étape, effectivement, c'est de sortir de l'ébriété pour aller vers de la sobriété, c'est-à-dire de réduire nos consommations d'énergie, en fait. Voilà. La deuxième étape, c'est l'efficacité. Et la troisième étape, c'est les énergies renouvelables, c'est-à-dire développer des formes de fabrication d'énergie autres que basées sur les énergies fossiles. Voilà.
L'Allemagne l'essaye et a eu recours pour chauffer donc ses citoyens cet hiver au charbon.
Mais oui, bien sûr.
En grande quantité. Est-ce que finalement c'est
pas bon du tout, parce que ça fait des gaz à effet de serre.
Il y a les panneaux solaires qui sont taxés là aussi, des panneaux solaires qui arrivent de Chine et qu'on va taxer. Du coup, là, d'ailleurs, la Chine va taxer Nova.
Mais vous voyez que c'est un grand enjeu, quoi, en fait. Ouais. Cette problématique de la transition énergétique, c'est la problématique la plus importante, je crois, de nos sociétés actuelles. Quoi.
Et est-ce qu'on est obligé de passer
par... Ça crée des tensions, bien sûr.
Est-ce qu'on est obligé de passer aussi par l'augmentation des tarifs pour inverser cet état d'ébriété vers la sobriété? C'est-à-dire que d'ici 2017, nos factures d'électricité, elles vont passer à 30%, je crois, de plus que ce que c'est aujourd'hui. Moi, je trouve ça déjà dingue aujourd'hui. Je sais même pas comment je vais faire pour payer ma facture d'électricité dans 2 ans, quoi.
Mais vous avez raison. Mais c'est pour ça qu'il faut anticiper. Mais l'électricité en France, elle n'est pas vendue à sa vraie valeur, parce que l'électricité en France telle qu'elle est vendue maintenant n'est pas comptée dedans le coût du nucléaire, c'est-à-dire le coût du démantèlement, par exemple, des centrales et le coût de la sécurité nucléaire. Donc, jusqu'à présent, le prix de l'électricité, si vous voulez, n'incluait pas ça. Voilà. Alors, jusqu'à présent, EDF dit, le discours, c'est, nous avons grâce au nucléaire, nous avons l'électricité la moins chère d'Europe. Mais c'est faux, parce que si vous voulez, dans les coûts, nous ne sommes pas introduits les vrais coûts de traitement des déchets, de démantèlement des centrales, etc. C'est une vraie problématique. Donc, ce débat sur la transition énergétique, il est important, et je souhaite vraiment, donc, nous, à Europe Écologie, on organise un débat dans le cadre du débat national sur la transition énergétique samedi à 15h à la Maison du Peuple. Bon, moi, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent, parce que quelquefois, c'est intéressant ce que vous dites, parce que voilà, vous reliez, si vous voulez, l'écologie et le social. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit, mais comment je vais faire pour payer ma facture? Mais il y a des personnes qui ne peuvent plus se chauffer. Donc, l'écologie, c'est pas une bulle, c'est pas quelque chose à part. Ça touche complètement nos façons de vivre, nos modes de vie, et ça touche tout à fait l'aspect social.
Une dernière question. Il y a cette question sous la forme de la provocation de la revue Projet qui paraît ces jours-ci. Mm-hmm. La transition énergétique, mauvaise nouvelle pour les pauvres. Qui renvoie finalement à ce que Rémi...
C'est terrible. Oui. Mais si vous voulez, bon, c'est ce que je vous disais, ça crée des tensions et tous les lobbies sont sur le pied de guerre, en fait. Voilà, donc il faut faire de l'intox. Vous croyez, vous, que c'est une bonne nouvelle pour les pauvres, que l'électricité augmente? Actuellement, il y a déjà des pauvres, il y a déjà des personnes qui ne peuvent pas se chauffer, quoi. Donc, plus ça va aller, plus le pétrole va être cher, plus le gaz qui est indexé sur le pétrole va être cher, plus l'électricité va être chère. Donc, ce n'est pas la transition énergétique qui est une mauvaise nouvelle pour les pauvres. C'est si on ne fait rien, là c'est une mauvaise nouvelle pour les pauvres.
On marque une pause dans cette conversation entre Kader Youb et Annie Bonnefond pour Europe Écologie Les Verts. Un peu de pub et puis on revient tout de suite.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, le MAG. Tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Je suis tombé sous le charme.
Exceptionnel dans votre Cap Cinéma de Montauban, les retransmissions du concert de Christophe Maé, vendredi 7 juin 20h et samedi 8 juin 16h. Dans un endroit encore tenu secret et juste avant la sortie officielle de son nouvel album, venez découvrir Christophe Maé comme vous ne l'avez jamais vu et profitez d'un concert événement.
Je crois pas au hasard.
Invitation à gagner sur cfmradio.fr et le soir dans l'émission À qui le tour au 05 63 930 020.
Du 5 au 28 juin, 20e Open de Montauban de tennis, inscrivez-vous. Le tournoi régional débute le 5 juin avec les épreuves de double dames mixtes et messieurs, date limite d'inscription le 3 juin. Dès le 12 juin, début des épreuves de simple, nombreux tableaux au programme pour les jeunes et moins jeunes. Inscrivez-vous sans tarder. Pour tout renseignement et inscription, connectez-vous sur le site internet du club atm.tennisweb.fr ou par téléphone au 05 63 03 30 38. Chérie?
Oui?
Les 8 et 9 juin, c'est Automania à Caussade, le salon des véhicules neufs et d'occasion. Près de 150 véhicules exposés dans le centre-ville. Il y aura même des camping-cars. C'est le moment de préparer les vacances, non?
C'est sûr! Et avec plus de choix que l'année dernière. J'ai hâte d'y être.
Oh, moi aussi, hein. Sur les promenades en plein centre-ville, avec en exclusivité régionale, la présentation d'un nouveau modèle.
Dis donc, toi, tu ne penserais pas à la fête des pères?
T'as tout compris. Et je la prépare à Caussade. Ce message a été réalisé avec le concours du Crédit Agricole Agence Locale de Caussade.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
On reprend cette conversation, c'est le rendez-vous politique entre Kader Youb et Annie Bonnefond d'Europe Écologie Les Verts. Annie Bonnefond, vous êtes conseillère municipale à la ville de Montauban dans l'opposition. Vous êtes conseillère régionale sur une liste régionale d'Europe Écologie Les Verts. On voulait vous poser la question de comment ça se faisait que vous étiez sur une liste de la Haute-Garonne à la région et conseillère municipale à Montauban.
Oui. D'accord. Alors, je suis montalbanaise. Mais c'est vrai, vous avez raison de poser cette question parce qu'au moment des élections, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Le problème des listes, c'est qu'il faut qu'elles soient paritaires, en fait. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait, par ordre, une femme, un homme, un homme. Voilà. Bon. Ah, il se trouve que dans le Tarn-et-Garonne, la tête de liste, puisque nous, sur la région, on a fait 13%, voilà. Donc, on a choisi au deuxième tour de rentrer dans la majorité et donc d'aller sur la liste de Martin Malvy. Donc ensuite, c'est poser la question et puis proportionnellement, si vous voulez, aux 13% qu'on avait, ça correspondait à 15 élus. Mmh. Donc il fallait absolument que les 15 élus, et notre choix, ça a été que les élus ne soient pas tous de Toulouse, qu'ils soient répartis sur le territoire. Donc il fallait absolument verrouiller et que les élus des départements, d'accord, soient élus. Donc moi, sur le département du Tarn-et-Garonne, la première de liste était Sylvia Pinel, donc le deuxième était un homme, la troisième c'était Dominique Salomon, et moi je me serais retrouvée en cinquième place, si vous voulez. Et la cinquième place était, selon les votes, j'étais élue ou j'étais pas élue. Et donc, ça verrouillait pas. Donc, du coup, je pouvais pas remonter à la troisième place, qui était la place de Dominique Salomon. En fait, les négociations n'ont pas été possibles dans ce sens. Donc, du coup, ça a été un collègue d'Europe Écologie, homme de Toulouse, qui est venu en quatrième position. Et moi, je suis allée sur la Haute-Garonne. Mais au final, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que si vous voulez, les dossiers du conseil régional, ils concernent des problématiques régionales et pas départementales. Voilà. Mmh. Mais je suis une élue régionale du Tarn-et-Garonne et je me considère comme telle. Voilà.
D'accord. Alors, en ce moment, à Montauban, a lieu l'Assemblée générale de l'Association des collectivités territoriales pour l'utilisation des huiles végétales pures carburant.
Où ça?
En mairie de Montauban, là, hein, oui, puisque c'était une assemblée, l'association était présidée auparavant par Jérôme Cahuzac, et aujourd'hui c'est Brigitte Barège qui préside cette association. Qu'est-ce que vous en pensez? On parlait de transition énergétique, d'énergie fossile, des huiles végétales pures, des biocarburants. Il y a quelques bus, quelques engins municipaux, des camions, oui, des choses comme ça qui tournent avec ça. On sait aussi que l'huile de palme, la culture d'huile de palme partout dans le monde, ça fait aussi quelques ravages. Mais ici, on travaille, je pense, avec cette association sur des circuits courts.
Oui. Enfin, moi, personnellement, je suis pas favorable parce que je trouve que les terres arables, elles doivent être consacrées à la nourriture humaine avant d'être consacrées à la nourriture des voitures, si vous voulez. Voilà. Nous allons vers 9 milliards d'individus sur la planète et il y a déjà 1 milliard de personnes sur cette planète qui ne mangent pas à leur faim, donc je trouve assez grotesque que l'on cultive des terres pour nourrir les voitures. Voilà, c'est tout. Je pense que la solution, elle est ailleurs, c'est dans le développement des transports en commun, dans le développement du covoiturage, dans le développement de la voiture partagée, dans le développement du vélo, et etc. Voilà, et pas forcément dans le développement des bioénergie pour
Des biocarburants.
Des biocarburants, pardon, pour les voitures.
Kader.
Oui, alors, Annie Bonnefond, avant de passer sur l'actualité locale, sur les élections municipales qui se profilent à l'horizon 2014, le dossier LGV...
Alors, le dossier LGV...
Vous m'arrêtez si je me trompe. C'est depuis votre victoire lors des régionales 2010, le sujet de désaccord avec Martin Malvy. Sur quoi porte exactement ce désaccord? Ce n'est pas que du financement, vous êtes en désaccord sur l'essence même de ce projet?
Alors, nous, on dit, il y a plusieurs aspects sur ce projet, en fait. Bon, le premier, quand même, c'est le financement. C'est-à-dire que, normalement, les lignes nationales de TGV doivent être financées par l'État, pas par les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, elles ont la compétence...
Mais si l'État le finançait entièrement, vous ne seriez pas d'accord non plus?
Oui, alors, parce qu'après, il y a autre chose. Mais quand même, oui. Ça se fait au détriment, si vous voulez, de financement sur... déjà, au niveau du conseil régional, il y a de l'argent qui va vers... qui est pour la ligne Tours-Bordeaux, et il y a de l'argent qui est mis de côté pour la ligne Bordeaux-Toulouse. Voilà, plus... bon, mais au détriment, ça au détriment du transport du quotidien de ferroviaire de tous les jours, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le TGV, ça concerne 10% de la population, en fait, et 90% de la population prend le train quotidiennement pour aller travailler.
Un projet écologiquement et socialement inapproprié, selon François Simon, votre collègue vert,
oui, alors,
à la région.
Ensuite, ça pose effectivement tout l'aspect de l'impact sur les terres arables. On est toujours dans la même logique, hein, voilà. Donc ça pose aussi cette problématique-là. En sachant que, vous le savez certainement, il y a un département qui disparaît à peu près tous les 10 ans sous le béton, quoi, entre les centres commerciaux et tout ce genre de projet, Notre-Dame-des-Landes et le TGV, etc. Bon, voilà. Donc, il y a plusieurs aspects sur cette LGV, en sachant que on pourrait faire... Bon, ensuite, on en est là rendu à 9 milliards. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas les collectivités territoriales qui payent, quelque part l'argent qui va être utilisé, c'est notre argent, c'est l'impôt, qu'il soit géré par l'État ou qu'il soit géré par les collectivités territoriales, il s'agit de la même chose. Il s'agit de notre impôt collectif, de notre argent collectif. Donc utiliser 9 milliards pour un TGV, bon, pour l'instant, la décision n'est pas encore prise, hein, puisque le comité qui doit décider des projets qui vont être réellement financé ou pas ne s'est pas encore prononcé, il va se prononcer fin juin là, donc on ne sait pas trop si ça va y être. Bon, il y a des fuites qui disent que il devrait revenir sur ce projet là,
ça change
bon,
tous les jours,
en sachant que nous ce qu'on propose c'est un aménagement des lignes existantes pour aller plus vite quand même, il faut entendre aussi la demande, parce qu'on ne peut pas être contre tout non plus, hein. Donc pour aller plus vite sur Paris mais à moindre coût, en sachant qu'on peut réaménager les lignes existantes, en enlevant les passages à niveau, en faisant des shunts là où c'est possible, voilà, à moindre coût, 1 milliard et quelques, ou 2 milliards grand maximum.
On a compris votre position, il faut accélérer parce qu'il nous reste 3 minutes, 34 minutes, c'est dommage,
Kaderio.
De toute manière, cette émission, elle va y en avoir de nombreuses jusqu'aux élections.
Pensez-vous, Madame Bonnefond, que la région Midi-Pyrénées fait tout ce qu'il faut pour l'aménagement du territoire et le désenclavement de départements comme l'Ariège ou le Tarn-et-Garonne? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Une sorte de solidarité inter-territoire?
Oui, quand même. Dans nos politiques, il y a une volonté d'égalité des territoires. Enfin, du moins, on veille à ce que les territoires sont soient traités de la même façon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire désenclavement? Bon, voilà. Vous savez, au niveau des statistiques, la région Midi-Pyrénées, elle est considérée comme la région où on vit le mieux. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire désenclavement? Je crois qu'on a des schémas dans la tête et qu'à un moment donné, ben il faut les faire évoluer aussi, quoi. Voilà.
Bon.
Moi, je me sens pas enclavée, quoi, hein, Midi-Pyrénées, hein. Tarn-et-Garonne, hein.
Je parlais d'autres départements, et pas forcément que le Tarn-et-Garonne, mais l'Ariège, le Gers, qui sont assez loin de Toulouse. Finalement, il faut prendre la voiture, mettre une heure de temps, et avec des infrastructures économiques.
Mais pourquoi la voiture? Vous pouvez prendre le train. Le train, il traverse l'Ariège, il va jusqu'à Axeterme et au-delà.
D'accord. Bon.
Mais voilà.
Donc, les municipales, Madame Bonnefond, 2014. Okay. Quelle est votre position et si on pouvait faire un bilan rapide de la mandature Barège?
Alors, la mandature Barège, la dernière, elle a vu de nombreux projets. Enfin, elle a vu la continuité du golf, bon, voilà, qui, on le sait, bon, bat de l'aile au niveau de l'exploitation. On voit un nouveau projet qui arrive, qui est la piscine, qui s'inscrit en rien dans le développement durable, parce que ce qui est conçu, c'est de chauffer une piscine l'hiver au gaz. On sait que le gaz va augmenter, que donc les coûts de fonctionnement vont augmenter, et que donc, moi je sais pas, mais dans 10 ou 15 ans, je suis pas sûre qu'on puisse aller, que la piscine soit fonctionnelle pour les habitants de Montauban. Voilà, il y a des projets comme ça qui sont pas, comment dire, construits dans une perspective de long terme, quoi. Voilà. Et ça, c'est catastrophique, parce qu'à un moment donné, Montauban va le payer, quoi. Ce sont les habitants de Montauban. Alors, effectivement, après, au niveau de l'embellissement de la ville, moi, je reconnais qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, par exemple, au niveau du covoiturage, etc. Tout n'est pas à jeter, hein. Il y a des choses qui ont été faites. Mais après, il y a des projets lourds quand même qui vont plomber la ville financièrement pendant plusieurs années, quoi.
Quelle est votre stratégie Europe Écologie Les Verts pour ces municipales? Est-ce que vous ferez alliance avec le PS et Parti Radical de Gauche avant le premier tour, ou vous partirez seul?
Il reste 30 secondes.
30 secondes. Est-ce que vous, par exemple, vous seriez partante pour une primaire?
Alors, on ne va pas partir seul, parce que si vous voulez, on n'est pas en capacité de faire une liste autonome. Voilà. Donc, on n'a pas assez de militants pour pouvoir faire une liste autonome. Donc, on ne va pas partir seul. Voilà.
Donc, vous participerez pas aux primaires organisées par la gauche à Montauban?
Je sais pas. Pour l'instant, on n'est pas encore déterminé définitivement. Mais pour l'instant, je vous dis qu'il est difficile pour nous de faire une liste autonome.
Merci, Annie Bonnefond.
Merci, Annie Bonnefond, pour Europe Écologie Les Verts. Merci, Kader Youb. On se retrouve dans une semaine avec un autre invité. Ce sera
Valérie Grabeau, députée PS.
Eh ben voilà, dans une semaine. Merci d'avoir été là. La suite, c'est dans quelques instants après les infos. On va s'intéresser au repas ufologique. À tout de suite.
CFM, il est 17h30.
CFM.